C'est un rendez-vous habituel à l'abbatiale Saint-Philibert de Tournu. Orgue en ascension, ascension comme bien sûr la fête chrétienne. 4 jours, 4 concerts en fin d'après-midi sur cet orgue de l'abbatiale de Tournu que vous connaissez déjà pour l'avoir pratiqué, Aurore Baal.
Oui, en effet. J'ai pu apprécier le fait que c'était un instrument du début du XVIIe siècle, enfin du premier tiers, ce qui est assez rare. L'orgue classique français de Tournu permet de réaliser davantage de pièces polyphoniques, d'entendre davantage les voix, et ces 4 claviers permettent de changer très rapidement les sonorités sans qu'on ait à interrompre le jeu.
4 concerts, 4 organistes. Alors certains politiques remarqueraient que la parité est respectée puisque ce sont 2 musiciennes, dont vous, qui donnent les premiers concerts. Le concert d'ouverture étant donné par Michel E. Guillard. Vous venez le vendredi, c'est Laurent Arcille qui vous succède le samedi. Et Gérard Goudet, le co-titulaire de l'orgue de Saint-Philibert, donnera le dernier concert. Votre concert est une sorte de concert thématique, alors la thématique n'étant pas l'ascension, mais la Pentecôte.
Alors la Pentecôte, effectivement, suit l'ascension.
10 jours après.
Pourquoi j'ai choisi le feu de la Pentecôte ? Parce que d'abord, il existe de la littérature fantastique pour orgue, basée autour du chant grégorien « Veni Creator ». On aurait pu choisir aussi l'autre thème grégorien, qui est « Veni Sancte Spiritus ». Mais le thème grégorien du « Veni Creator » a été traité autant par les organistes français que par les organistes allemands, car Luther en avait fait une autre version en 1524, en traduisant en allemand pour que les gens comprennent le texte.
Et donc on ne dit pas « Veni Creator » lorsqu'il s'agit de la version allemande, on dit
« Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist ».
S'agissant d'un instrument français, vous avez donc choisi un programme essentiellement français.
Exactement, j'ai voulu pouvoir mettre en valeur toutes les possibilités sonores de cet instrument, qui recèle des petites perles, comme par exemple un clavier d'écho très sensible avec un cornet et une trompette. Nous avons donc le cornet de 5 rangs et un cornet de 3 rangs au récit, donc ça permet d'avoir des couleurs quand même qui varient. Et je trouve que c'est un peu un écho au chatoiement des couleurs des vitraux, voilà.
Tout c'est un peu technique, alors si on donne quelques noms de compositeurs, on a entendu quelques secondes de l'introduction du Tédéum de Charpentier.
Donc tout d'abord, vous entendrez des compositeurs français de différentes époques, ça permet de faire entendre l'instrument avec différents types de traitements de l'orgue, donc avec Jean Titlouz qui est plutôt à écrire de la polyphonie ancienne, début du 17e. Aussi des choses très très étranges pour ceux qui sont habitués à l'orgue classique français avec le Veni Creator de Jacques-Marie Bouvarlet Charpentier qui lui écrit dans un style qui est à la fois adapté à l'orgue classique, par exemple de Tournu, mais en même temps on a l'impression d'entendre du Mendelssohn. C'est très très étonnant. Bach. Pourquoi j'ai choisi des œuvres de Bach? C'est parce que très jeune, lors de sa formation musicale, lorsqu'il avait 13, 15, 16 ans, il a copié l'intégrale des hymnes et de la messe de Nicolas de Grigny. C'est pourquoi vous entendrez d'abord le Veni Creator de Grigny et ensuite une version de Bach. Ce choral est particulier parce qu'il l'a traité deux fois, une fois en 1708, c'est-à-dire 9 ans après la version de Grigny. Et ensuite, il a traité une fois qu'il était plus dans sa maturité, à 55 ans, et il a rajouté un développement qui correspond plus à sa période de maturité.
Lorsqu'on évoque les thématiques en musique d'orgue, on pense beaucoup bien sûr à la fête de Noël. Est-ce que vous avez un peu envie de nous surprendre tout de même en choisissant cette thématique de la Pentecôte et du Veni Creator?
Effectivement, j'avais la volonté de surprendre. Certes, le Veni Creator de Nicolas de Grigny est, je dirais, très connu. La pièce de Bach qui suit est très connue. Mais la pièce de Titlouse et celle de Bouvard les Charpentiers ne le sont beaucoup moins. Et donc, de les mettre comme ça tout autour, encadrant les pièces connues, permet d'être davantage surpris et de les replacer dans le contexte. Et surtout, d'entendre des pièces qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre. Effectivement, les Noëls français sont bien, bien plus célèbres.
Orbal, on n'a pas du tout parlé de votre biographie parce qu'au moment où nous enregistrons, vous êtes en Suisse, vous êtes vous aussi titulaire à une tribune et pourtant vous venez de chez nous, vous venez de Normandie.
Oui, exactement. Mon parcours est comme celui, je pense, de beaucoup de musiciens et parsemé de villes que j'ai visitées et pour étudier. Comme à Lyon, par exemple. Et c'est d'ailleurs durant mes études à Lyon que j'ai connu la ville de Tournu, parce qu'elle se trouve, oui, un peu plus au nord. Je dirais que d'abord, j'ai voyagé pour suivre l'enseignement d'un professeur ou de plusieurs professeurs en particulier. Et ensuite, pour ce qui est de mon travail dans ma paroisse actuelle et celle d'avant, le poste était ouvert à concours et donc j'ai décidé de candidater aussi parce que il y avait la possibilité d'organiser une série de concerts et effectivement ça m'intéressait parce que dans toutes les tribunes on peut jouer des services, mais ce qui peut faire la différence c'est le fait de pouvoir inviter des musiciens et nous avons ici dans la paroisse où je travaille trois orgues, un orgue de chœur baroque, un grand orgue de 74 jeux qui peut à peu près tout jouer et un orgue positif avec lequel on peut faire de la musique baroque en ensemble qui est très très facilement transportable.
Est-ce que ça veut dire que au moment où la liturgie fait peut-être moins appel à l'orgue, à la musique classique, au profit d'un certain modernisme que certains apprécient peu ou prou, est-ce que ça veut dire que le concert dans l'esprit, dans l'activité des musiciens et des musiciennes prend peut-être plus de place ou devient plus important que la pratique de la liturgie?
C'est une excellente question. Je pense déjà que ça dépend de ce que l'on a vécu en tant qu'enfant et adolescent. C'est-à-dire, si on a grandi dans une famille qui était pratiquante, évidemment, on aura un lien à la liturgie qui sera autre que si on a grandi dans une famille qui pratique une autre religion ou qui est athéiste. Ça, je pense que c'est assez évident. Le bagage avec lequel on vient étudier l'orgue va complètement déterminer la manière dont on aborde l'instrument.
Oui, mais il y a aussi ce que Monsieur le curé a envie, ou le pasteur, aussi envie d'entendre dans sa paroisse.
Exactement. En fait, effectivement, lorsque on obtient un poste, il y a la réalité du terrain qui nous rejoint. Et par exemple, moi, je me retrouve dans la situation avec 4 pasteurs. Et donc, une pasteur a étudié la musique d'église en Allemagne. Donc, elle est très très ouverte, elle connaît très bien les passions selon Saint Matthieu, etc. Elle a une oreille complètement développée pour ça. Alors que j'ai 2 pasteurs, par exemple, qui viennent des communautés, on va dire, protestantes évangéliques, par exemple les pentecôtistes, justement, en parlant du feu de la Pentecôte. Et eux sont habitués à avoir, vous voyez, un groupe de pop louanges.
À l'américaine.
Ils ont énormément de mal à communiquer avec un organisme parce qu'ils ne connaissent pas les codes, ils ne savent pas ce que l'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, ce que l'on peut faire pour accompagner un texte, pour accompagner une liturgie, tout simplement. Et ils sont perdus face au répertoire traditionnel protestant, parce qu'ici, c'est une église protestante traditionnelle, calviniste. Et donc, de ce fait, comme ils ne savent pas eux-mêmes chanter les chants protestants calvinistes qui sont dans le répertoire traditionnel des gens qui viennent pratiquer, ça pose des problèmes au quotidien. Hein. Dans la liturgie traditionnelle, ici, l'orgue a une énorme place. Il occupe la moitié de la messe, enfin du culte. Donc, à la différence de la liturgie catholique, on a toujours des interventions très longues. Donc le minimum c'est 3-4 minutes et ça peut monter jusqu'à 8-10 minutes. Alors que dans la liturgie catholique c'est toujours des très très brèves interventions. Et la chose peut-être qui m'a frappée le plus, c'est qu'après l'homélie chez les catholiques on joue 45 secondes, 1 minute de méditation. Alors qu'ici, après une prédication protestante qui dure de 15 minutes à 25 minutes, l'orgue joue au minimum 5-6 minutes, vous voyez ? Donc c'est pas du tout la même chose, pas du tout le même rôle. Ça vient un petit peu en opposition avec la vision protestante évangélique des nouvelles communautés.
D'où l'importance du concert.
Donc, on finit par se retirer, je dirais, si on veut pratiquer notre instrument avec son répertoire, vers le concert. Et il faut dire aussi que le concert attire davantage de gens.
C'est le concert, donc, dont il est question pendant 4 jours à l'abbatiale Saint-Philibert de Tournus. C'est à 18h, à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche. Je voudrais vous remercier, Aurore Baal, parce que pour ponctuer notre conversation, vous n'avez pas fait de disque, mais vous avez eu la gentillesse d'enregistrer pour nous, alors avec des moyens de fortune, et il faut le dire, qu'il y a, ouais, mais c'est peut-être pas complètement équilibré, etc., etc. Les extraits donc, qu'on a pu entendre ont été faits par vous, j'oserais pas dire à l'arraché, parce que c'est joli quand même.
Oui, et puis il faut dire aussi que enregistrer un orgue, c'est tout un métier. C'est pas n'importe quel ingénieur du son qui sait enregistrer un orgue.